Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon week-end. On va revenir ce matin avec Cédric Mas sur l'échec de l'attaque d'Israël par l'Iran et sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je recevrai ensuite Frédéric Rouvillois, il est professeur de droit constitutionnel et il publie un livre sur la politesse et la politique. Et l'on terminera l'émission avec une spécialiste de l'eau, Esther Crozet-Delbourg. Il a beaucoup plu ces dernières semaines sur toute la France. On va voir avec elle quelles vont être les conséquences. Cédric Mas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien militaire et un très fin observateur des conflits de ce début de 21e siècle. Le week-end dernier, lorsque l'Iran a attaqué Israël, 99% des drones et des missiles iraniens ont été interceptés avant d'atteindre le territoire israélien. Alors qu'est-ce que c'est que ce dôme de fer qui protège l'État hébreu? Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, c'est un raccourci qui nous fait appeler ce système de défense antiaérienne de dôme de fer, puisqu'en réalité, le dôme de fer est un système qui est destiné à protéger Israël des roquettes et des obus à très courte portée qui sont lancés depuis les territoires palestiniens, notamment la bande de Gaza. En réalité, les systèmes qui ont intercepté les missiles balistiques, les missiles de croisière et les drones à longue portée Shahid, qui sont les mêmes employés par la Russie en Ukraine d'ailleurs, ce sont des systèmes qui sont des systèmes d'interception beaucoup plus élaborés et pour lesquels d'ailleurs les États-Unis ont mis la main à la pâte, si je puis me permettre, puisque une partie de ces interceptions sont intervenues de tirs américains, de même que les Européens et les Français ont fourni la détection des trajectoires de ces missiles, de ces vecteurs qui mettent un certain temps avant d'atteindre le territoire d'Israël et donc ce qui permet à la défense antiaérienne israélienne et de ses alliés, dont les Américains, d'intervenir, de les intercepter avant. Beaucoup ont d'ailleurs été interceptés avant même qu'ils parviennent sur le territoire israélien. Si on doit comparer cette guerre aérienne avec celle qui se passe en Ukraine, puisqu'on a des vecteurs qui sont similaires, hein, les drones iraniens sont aussi employés par la Russie, comme je le disais, il faut déjà comparer la situation géographique. C'est la géographie qui imprime les choses. Israël est un territoire très exigu, très facile à défendre, alors que l'Ukraine est très immense, c'est un territoire immense, et donc les mêmes moyens n'obtiendraient pas les mêmes résultats en Ukraine, sachant qu'il n'y a pas les mêmes moyens.
Alors, un tel système de défense antiaérienne, est-ce que d'autres pays en disposent?
Eh bien, il faut l'espérer en tout cas qu'ils disposent des systèmes aussi performants. La technologie, en tout cas, est maîtrisée par un certain nombre d'autres pays. Même si je ne suis pas un spécialiste de la guerre aérienne, je sais que la France, les États-Unis et même la Russie se targuaient de disposer de systèmes équivalents. Après, la question, c'est leur efficacité par rapport aux cibles à protéger. Je le répète, Israël est un territoire très exigu, donc il est assez facile de pouvoir couvrir l'intégralité des moyens, des axes d'approche de ces vecteurs.
L'Iran a montré un peu la limite de son matériel. On dit que 50% des missiles lancés sont écrasés juste après leur décollage.
Alors, ces chiffres restent à vérifier. Il y a beaucoup de guerres informationnelles des deux côtés. Comme en Ukraine, les opérations en Gaza nous montrent une intensité de la guerre informationnelle des deux côtés, côté israélien comme côté pro-palestinien et donc iranien notamment, qui est très importante. Donc je resterai très prudent sur ces chiffres. En attendant, ce n'est pas nécessairement un échec, car c'est la première fois qu'Israël est attaqué par un aussi grand nombre de vecteurs, et il est certain que l'Iran n'a pas a, semble-t-il, montré en tout cas en apparence une certaine retenue dans ses coups. Donc il faut rester très prudent.
Alors il faut voir aussi le rapport qualité-prix. La défense israélienne aurait coûté au moins 7 fois plus cher que l'attaque iranienne. Plus $1 milliard en une soirée. Voilà ce que coûterait le dôme de fer. Mais bon, là aussi c'est peut-être exagéré. Tandis que les drones iraniens ne coûtent que quelques dizaines de milliers d'euros. En cas de guerre longue, on verrait la différence, non?
Alors, c'est toujours le même problème. Quel est le prix de la sécurité? Donc là, les chiffres sont un peu plus faciles à vérifier puisque les coûts budgétaires de ces systèmes sont très importants. Le caractère onéreux des matériels de haute technologie que les armées occidentales, y compris la France, sont capables de déployer est un faux problème en réalité, car il suffit qu'un seul de ces vecteurs parviennent à Tel Aviv et s'écrasent sur un immeuble d'habitation pour faire des centaines de victimes. On le voit en Ukraine chaque jour, hein. Je vous répète que chaque chaque jour, vous avez des missiles et des drones chaïds qui s'écrasent sur les immeubles d'habitation et qui tuent des civils et des familles entières. Quel est le coût de Vigipirate par rapport au coût du montage d'un attentat, des attentats du 13 novembre? On pourrait comparer la même chose. La sécurité n'a pas de prix. Et en tout cas, nous avons, et il faut s'en féliciter, les moyens technologiques de pouvoir l'assurer pour l'instant.
Alors, un qui a été impressionné par le dôme de fer, c'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a déclaré « Ici en Ukraine, nous n'avons malheureusement pas le niveau de défense que nous avons tous vu au Moyen-Orient il y a quelques jours. L'Ukraine pourrait-elle être protégée par l'Occident autant que les Israël ?» Vous l'avez dit, Israël est un territoire beaucoup plus exigu, hein, 22 000 kilomètres carrés. L'Ukraine, c'est 600 000 kilomètres carrés, 30 fois plus grand. Mais est-ce qu'on pourrait protéger l'Ukraine un tant soit peu aussi efficacement qu'Israël?
Alors, le protéger efficacement, je ne le sais pas, mais en attendant, mieux les protéger et mieux les soutenir, c'est évident. L'Ukraine a réclamé la livraison des matériels et des technologies israéliennes antiaériennes, qui sont souvent des technologies développées par Israël avec d'autres pays. Je pense notamment à des partenariats militaro-industriels avec la Suède. Et Israël et le gouvernement de Benjamin Netanyahou ont systématiquement bloqué depuis 2022 toute livraison de matériel militaire à Israël. Pourquoi
à l'Ukraine.
Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, Israël, la sécurité de tout le nord d'Israël est entre les mains de Vladimir Poutine, puisque Benjamin Netanyahou l'a laissé s'installer en Syrie à partir de septembre 2015. Et aujourd'hui, c'est grâce à la Russie qu'Israël peut frapper l'Iran en Syrie. Et il suffit que la Russie s'y oppose ou au contraire pousse l'Iran à lancer des attaques contre le nord d'Israël pour que la situation bascule. Et donc, Benjamin Netanyahou est aujourd'hui pris dans un chantage et ne peut pas fournir ce matériel. En ce qui concerne notre matériel, nous, oui, nous le fournissons compte-gouttes. Les Allemands rechignent à fournir de matériel d'antiaérien. Il faut savoir que chaque jour, hein, par exemple le 17 avril à Tchernihiv, un missile s'est écrasé sur un immeuble, 60 blessés et 18 morts d'après le dernier bilan provisoire, sachant que les décombres n'ont pas pu être dégagés. On a vu des frappes aériennes stratégiques de drones et de missiles très précises de la part de la Russie contre les centrales énergétiques ukrainiennes il y a quelques semaines. Ce qui montre que lorsque la Russie vise des habitations civiles, c'est volontairement. Et donc il s'agit bien d'un crime de guerre parce qu'elle a les moyens technologiques d'être beaucoup plus précise.
Alors on a parlé de représailles israéliennes puisqu'il y a eu des explosions dans la région d'Isparan, des drones apparemment. Est-ce qu'on en sait plus ou est-ce que vous en savez plus? Cédric Mass.
Oh non, et je me garderai bien. Dans les deux cas, tout ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a une représaille pour le principe, de même que la frappe iranienne était un petit peu pour le principe après la frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas, hein, puisque tout cela, c'est à chaque fois des réponses, des représailles. C'est un engrenage qui existe depuis des décennies maintenant au Moyen-Orient. Mais en revanche, ce qu'on peut relever aussi, c'est que pour l'instant, des deux côtés, on cherche à montrer qu'on fait preuve de retenue, même si un certain nombre de coups portent et que le bilan humain reste à préciser.
On fait une pause, Cédric Mass, et puis on va parler plus précisément de la guerre en Ukraine. Cédric Mass est toujours en direct avec nous. On vient de parler des défenses antiaériennes d'Israël. Parlons maintenant de celle de l'Ukraine. Elle serait réduite à peau de chagrin, d'après The Wall Street Journal. L'armée ukrainienne manque de tout, d'effectifs, de munitions, d'obus d'artillerie. Les chances de repousser la Russie semblent de plus en plus minces. Qu'en pensez-vous, Cédric Mass?
Alors, il y a deux éléments dans ce discours. Je vous ai parlé de guerre informationnelle. Il y a évidemment une situation qui est très compliquée pour l'Ukraine actuellement, et je pourrais y revenir plus en détail, puisque la Russie mise tout, hein, joue son va-tout aujourd'hui, engage tous ses moyens, sans aucun égard pour les pertes, en profitant d'une fenêtre de vulnérabilité qui s'est ouverte depuis octobre dernier, depuis le détournement d'une partie de la digue occidentale de l'Ukraine vers Israël et le blocage de l'aide américaine par le Congrès. Mais également, il y a aussi une certaine dramatisation du discours. Il faut se rappeler qu'à chaque fois que l'Ukraine a eu des discours un petit peu positifs et triomphalistes, les Occidentaux ont immédiatement réduit leur aide. Or, aujourd'hui, les Ukrainiens et à Kiev, on a bien compris le message et ce jeu, et donc on dramatise au maximum. Ceci dit, sur le terrain, la situation est tendue et compliquée. Vous avez parlé des défenses antiaériennes. On constate, les observateurs et les analystes constatent que l'aviation russe s'aventure de plus en plus près du front, ce qui est mauvais signe. Ça veut dire que la défense antiaérienne ukrainienne n'est plus suffisamment armée. Alors, il manque à la fois de vecteurs, mais surtout de munitions, c'est-à-dire des missiles à mettre dans les lance-missiles antiaériens de différents types. Et puis également, il manque d'artillerie. Mais là encore, il faut pondérer, car d'après les informations que j'ai obtenues du front, la communication ukrainienne met l'accent sur les frappes de drones et verrouille toute communication sur les frappes d'obus. Donc, ils cherchent vraiment à nous montrer qu'il manque d'artillerie. Il n'en manque peut-être pas tant que ça, mais en attendant, la situation reste compliquée face aux assauts répétés, sans aucun égard des pertes, lancés par la Russie, avec des pertes extraordinaires. Car la situation actuelle, même si elle ne bouge pas sur le front, c'est un carnage dramatique pour les deux camps.
Mais la Russie est très supérieure en termes d'effectifs et d'équipements, non ? Même si elle a subi, comme vous l'avez dit, de grosses pertes, elle reconstitue ses forces plus rapidement.
Alors, c'est de moins en moins le cas. On constate la disparition d'un certain nombre d'équipements et puis les ratios de pertes, l'ampleur des pertes subies depuis octobre. En septembre, la Russie a perdu 88 véhicules blindés, chars, véhicules blindés de transport de troupes, véhicules blindés de combat léger, etc. Actuellement, sur le mois d'avril, on est à plus de 179 à l'heure où nous parlons, vous voyez. C'est-à-dire qu'en mars, on est à 272. À ce rythme-là, on est entre 200 et 300 véhicules perdus chaque mois. Le système industriels russes et les réserves et les stocks ne peuvent pas tenir ce rythme très longtemps, ils ne pourront pas. Et on sent bien aujourd'hui que Vladimir Poutine joue son va-tout avec comme ligne de mire l'automne 2024 et notamment janvier 2025 en espérant l'arrivée de Trump au pouvoir. Parce qu'en réalité, les stocks de l'armée russe aujourd'hui, l'essentiel des équipements qui étaient immédiatement utilisables ont été retirés des stocks, on l'a constaté par les images satellites, et aujourd'hui il ne reste dans les stocks que des matériels qui nécessitent une refonte. Or, les usines russes sont déjà engorgées par le matériel qui revient du front endommagé, et donc à partir de ce moment-là, le système est en surchauffe. Sachant par ailleurs que c'est entre 20 et 30 000 hommes qui sont perdus chaque mois, entre les blessés, les prisonniers, les choqués et les morts. Et ces hommes, ils manquent à une population. Actuellement, les usines russes manquent de plus de 5 millions de travailleurs, voyez. Donc le système est complètement en surchauffe. Mais en apparence, il continue à pousser, tout simplement parce que les Ukrainiens en face sont encore moins à leur opposé que l'année dernière à la même époque.
Alors l'Ukraine, on le sait, dépend beaucoup de l'aide occidentale. Alors vous l'avez rappelé, les 95 milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine et à Israël sont toujours bloqués à la Chambre. Quelles conséquences on observe sur le terrain ?
Eh bien, comme je vous le disais, depuis octobre, hein, rappelez-vous, l'offensive d'été ukrainienne qui piétinait, qui n'a pas atteint les objectifs attendus, qui était un échec, se poursuivait jusqu'en octobre. Et à partir d'entre le 5 et le 10 octobre, il y a une bascule et une offensive russe qui se poursuit tout l'hiver et maintenant qui continue au printemps à Avdiivka et maintenant sur d'autres secteurs. Depuis le 7 octobre, parce qu'en réalité, et là, il faut le dire à vos auditeurs, il y a une espèce de jeu d'hypocrisie. L'aide israélienne n'a pas besoin d'un vote du Congrès pour être activée. Actuellement, depuis octobre, on a observé des augmentations de 10 à 30 fois plus de livraisons d'armes et de matériel et de munitions à Israël. En revanche, l'aide ukrainienne, elle, il faut un vote du Congrès qui est bloqué par les alliés de Poutine au Congrès, c'est-à-dire les représentants des courants les plus extrémistes pro-Trump.
Et les Européens essayent de prendre le relais des États-Unis. Est-ce que ça se matérialise sur le front ?
Alors, ça se matérialise essentiellement à l'initiative des Européens de l'Est. Hein, la République tchèque, par exemple, a pris l'initiative d'acheter sur étagère un certain nombre de stocks d'obus de 155, puisque les obus de 155 qui manquent à l'artillerie ukrainienne, ils sont actuellement tirés sur la bande de Gaza par l'armée israélienne, qui est équipée des mêmes matériels, en tout cas des mêmes calibres. Donc, on leur fournit ces obus. Mais une fois que vous avez trouvé un stock d'un million d'obus à fournir, il faut les livrer, les vérifier, les transporter jusque le terrain et ensuite les disséminer. C'est pour ça qu'actuellement, la Russie met le paquet, si vous me permettez l'expression, c'est qu'elle sait que cette fenêtre de vulnérabilité ukrainienne est en train de se refermer petit à petit. Et donc, force nous est de constater que sur le terrain, ces offensives, ces coups de boutoir répétés, malgré les pertes consenties, n'ont pas abouti ni à une percée du front, ni à un effondrement. Mais la situation est critique. Elle est critique pourquoi ? Parce que les Ukrainiens ne veulent pas lâcher leurs terres. Et aujourd'hui, ils sont obligés de lâcher du terrain, de laisser du terrain pour gagner du temps et économiser du sang.
La ligne de front est toujours à peu près la même depuis le début. 20% du territoire ukrainien est toujours occupé par les Russes. Vous l'avez dit, pas de percée, pas d'effondrement. Il n'y a pas eu de contre-offensive ou d'offensive depuis assez longtemps maintenant. On pense évidemment toujours à la guerre de 14-18.
Oui, mais comme certaines périodes de la guerre de 14-18, et comme je vous l'expliquais, actuellement, si le front ne bouge pas beaucoup, il bouge quand même quelques centaines de mètres grappillés par-ci, par-là, à un prix très élevé pour les Russes comme pour les Ukrainiens, si le front ne bouge pas beaucoup, les opérations sont très intensives. Hein. Les chiffres que je vous citais tout à l'heure, ce sont les pertes documentées par des vidéos ou des images, c'est-à-dire des pertes qui sont vérifiées, qui sont bien évidemment sous-évaluées par rapport à la réalité. On est le double de l'été dernier. Hein. Les pertes russes en juin 2023 et en juillet 2023, c'était une centaine de véhicules. Là, on est entre 200 et 280, voire peut-être même 300 en avril, nul ne le sait. Donc les opérations sont très intenses. On sent bien que les Russes veulent, non pas emporter la décision, mais en tout cas nous marquer dans les esprits et donner cette impression d'une puissance irrésistible, un espèce de rouleau compresseur, et surtout d'une puissance qui n'a pas de limite dans ses réserves. Or, on est en train de voir, dans les types de matériel qui sont engagés par les Russes, que ces réserves sont atteintes. Pour vous donner un dernier exemple, avant-hier, les Russes ont perdu 12 tanks, 20 véhicules blindés, 30 camions et 5 canons. Les artilleurs, en vert documenté, les Ukrainiens, 5 canons, 3 véhicules blindés, 2 camions et 3 tanks. Voilà. Donc vous voyez tout de suite que les ratios sont complètement délirants actuellement et insoutenables sur le long terme, même pour un pays qui se targue d'être aussi inépuisable et immense que la Russie.
Merci Cédric Mas. On va maintenant faire une pause et on retrouve ensuite Frédéric Rouvillois qui publie un livre sur la politesse et la politique.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Frédéric Rouvillois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit, vous avez beaucoup écrit sur le conservatisme, sur le progressisme, le snobisme et la politesse. Et aujourd'hui, vous publiez « Politesse et politique » aux éditions du CERF, un essai dans lequel vous vous inquiétez du recul du savoir-vivre. La démocratie est inséparable pour vous de la politesse ?
Je dirais la démocratie en particulier, mais la civilisation en général. Et voilà, c'est vraiment ça qui, effectivement, suscite mon inquiétude, qui n'est pas seulement lié au recul de la politesse, mais qui est lié au recul conjoint, justement, au fond, du politique et de la politesse. J'essaie de montrer qu'il y a une liaison étroite entre les deux et que la menace pèse sur l'une et sur l'autre.
En fait, la politesse serait inséparable de la politique et pas de la démocratie.
Exactement, c'est ça. Du reste, c'est ce que montre l'histoire longue, hein, depuis l'Antiquité romaine jusqu'à nos jours. Chaque fois que l'autorité politique s'est effondrée, la politesse, c'est-à-dire finalement des rapports sociaux fluides et agréables entre les personnes, s'est effondrée également. Voilà, on peut vraiment tracer un parallèle entre les deux. Et l'objet de mon livre, c'est de me demander finalement pourquoi, comment et quelle est la menace finalement qui pourrait être derrière.
Il y a un débat depuis quelques années, Frédéric Rouvillois, sur la politesse et on se demande si elle est de droite ou de gauche.
Justement, dans la mesure où elle est derrière la civilisation en général, j'essaie de montrer que, a priori, on aurait plutôt la tendance à se dire qu'elle est de droite, parce qu'il y a une dimension conservatrice, il y a la thématique de la tradition, de la transmission, l'importance de la famille, enfin, toute une série de valeurs qui sont plutôt connotées à droite. Mais en fait, quand on regarde un petit peu les grands penseurs qui ont évoqué la question, on a autant des penseurs de droite que des penseurs de gauche, et voilà, on a aussi bien La Bruyère que Kant, Bergson, etc.
C'est vrai que la politesse suppose la reconnaissance des différences, des hiérarchies, des usages, des bonnes manières, des traditions. Elle respecte l'ordre établi, elle favorise l'entre-soi. En ce sens, on pourrait dire qu'elle est de droite. Mais vous dites aussi qu'elle implique un égal respect de tous, et ça, ce serait plutôt de gauche.
Oui, c'est ça. Alors, la politesse n'est pas du tout égalitaire, mais elle nécessite effectivement que, on considère autrui comme une personne. Et finalement, on parle beaucoup des élections en Inde, là. Dans les systèmes de caste, par exemple, il est clair que il y a une une telle séparation entre les différents segments de la population que celui qui appartient à une caste donnée considère que les autres ne sont pas véritablement des êtres humains et par conséquent ne lui doit aucune politesse. Dans l'Antiquité, on n'est pas poli avec les esclaves. Et parfois, sous l'Ancien Régime, même, je cite un exemple qui est assez assez croustillant, je trouve, avec la Madame du Châtelet, donc la maîtresse de Voltaire, qui se comportait avec ses domestiques, notamment masculins, exactement comme s'ils étaient des choses.
Oui, et c'est elle qui a écrit le discours sur le bonheur, très célèbre, Émilie du Châtelet. Le conservateur Edmund Burke dit que les manières sont plus importantes que les lois. C'est d'elles que les lois dépendent, car les manières agissent sur nous en permanence, elles donnent une forme à la vie sociale et aux rapports humains, en fait. Hein.
C'est ça. Et par conséquent, elle constitue une sorte de substrat, effectivement, des rapports sociaux. On y a fait un prêt tout à l'heure, mais effectivement, il faut toujours se rappeler que politesse, ça vient de non seulement de polis, la cité grecque, mais également de l'idée d'avancer, de polir ces rapports, de les rendre aussi fluides que possible, et par conséquent, c'est la finalité même de cette politesse, d'éviter finalement les frictions, les frottements, les conflits et la violence.
Mais quelqu'un comme Victor Hugo, qui est très différent d'Edmond Burke,
c'est sûr.
qu'on qualifierait plutôt de gauche, lui parle de la politesse comme de la politesse du cœur, hein, la véritable politesse. Ce qu'il oppose aux rondes jambes et aux simagrées.
Oui, mais en fait, d'abord, l'une et l'autre ne sont pas forcément incompatibles. Mais d'autre part, voilà, contrairement à Voltaire, et je dirais aussi plus fondamentalement, contrairement à Alceste, le misanthrope de Molière, il faut bien se rendre compte que, même hypocrite, la politesse est utile et même indispensable, et qu'il vaut mieux faire des ronds de jambes à quelqu'un qui a envie d'avoir des ronds de jambes, plutôt que de lui faire la gueule et d'avoir les conséquences ensuite.
Mais néanmoins, j'insiste sur l'hypocrisie, parce que c'est toujours ce que l'on reproche à la politesse. Rappelons-nous de Fontenoy, on voit dans la politesse une condition de la concorde, de la politique, donc entre les individus, mais ça n'empêche pas la guerre. À la bataille de Fontenoy, vous vous souvenez de
oui,
la phrase
sûr.
Messieurs les Anglais, tirez les premiers, nous n'en ferons rien, avaient répondu les Anglais, on était en plein dans la guerre en dentelle avec sa politesse extrême, mais c'était quand même la guerre.
La politesse n'empêche pas la guerre, et là, en l'occurrence, elle se superpose finalement à la guerre, et c'est pour ça qu'elle nous paraît au fond incongru, parce qu'effectivement quand on fait la guerre, on n'est plus dans des rapports qui devraient être des rapports polis. On peut être dans des rapports moraux, on peut être dans des rapports juridiques, mais pas la politesse est un petit peu exotique en l'occurrence. Hein. Justement, l'objectif de la guerre, de la politesse, si je puis dire, c'est vraiment ça. C'est d'éviter, de la politesse, c'est d'éviter la guerre.
Oui, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, disait Clausewitz. Cela dit, quand je dis que la guerre en dentelle, ça n'évitait pas la guerre, ça évitait quand même de bombarder des civils, des femmes et des enfants. Hein. À l'époque, la guerre se résumait à un affrontement entre professionnels, ce qui nous dispensait de haïr l'ennemi et de vouloir son éradication.
Oui, oui, c'est disons que la politesse est un peu saupoudrée par-dessus, ça change pas grand-chose au problème. En revanche, ça change beaucoup de choses aux relations humaines du quotidien, et c'est en ce sens que, voilà, il s'agit d'un sujet vraiment politique.
On fait une pause, Frédéric Rouvillois, on y revient tout de suite après.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadéhi. Nous sommes ce matin avec Frédéric Rouvillois, professeur de droit qui publie « Politesse et politique » aux éditions du CERF. C'est vraiment un sujet d'actualité, la politesse. Hein. Vous tombez bien, j'ai l'impression.
Oui, vraiment un sujet d'actualité. Et je ne sais pas si vos éditeurs se rappellent, je crois que c'est il y a 4 jours, au Parlement géorgien, des députés qui se sont vraiment tapés dessus au sujet d'une loi dont certains voulaient et d'autres ne voulaient pas. Voilà, on a vraiment un exemple du fait que la politesse et la politique, même si elles sont très, très étroitement liées, peuvent également, dans certains cas, être en conflit.
Et c'est il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Géorgie. On a eu quelques événements ces dernières années à notre Chambre des députés, à nous, où on s'est posé la question de la politesse, tout à fait, comme
oui,
si elle avait disparu.
Parce que ce qui est assez amusant avec la Ve République, vous savez que c'est un peu de
votre dada.
Non seulement mon dada, mais en plus ce sur quoi je travaille, puisque je suis professeur de droit constitutionnel. Sous la Ve République, en fait, le Parlement, s'est relativement calmé par rapport à ce qu'il était, notamment sous la Troisième République, où c'est, qui est un peu l'âge d'or de la puissance du Parlement. Et les injures, les impolitesses, etc., se sont plutôt transférées du côté de l'exécutif. Et je regardais encore tout récemment la manière dont Emmanuel Macron a congédié Madame Borne le 8 janvier dernier par un simple tweet. On est dans quelque chose qui est... C'est une espèce de récusation des formes, du respect, de ce qui fait justement la politesse, a fortiori. Donc d'abord au sommet de l'État et en plus avec une dame, donc ça ne se fait pas.
Mais la politique dont vous dites qu'elle est inséparable de la politesse, c'est tout de même l'art de conquérir le pouvoir et de s'y maintenir. Ce ne sont pas les gens les plus polis qui réussissent, au contraire, ce sont des brutes. C'est ceux qui ne s'embarrassent pas de civilité, ceux qui sont capables de tout. C'est un métier, il faut savoir... tuer le père, il faut savoir trahir ses amis, oublier ses promesses ou tromper ses électeurs. Même les plus grands sont passés par là.
Oui, mais là encore, il faut pas confondre, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut pas confondre la morale et la politesse. La politesse peut être parfaitement amoral ou immoral, si vous voulez. Vous pouvez très bien ne rien penser de sympathique à la personne que vous allez saluer avec componction ou à qui vous allez écrire.
Oui,
avec
vous pouvez trahir vos amis, mais il faut le faire poliment. C'est ça que vous dites.
Disons que voilà, enfin, si on veut éviter une guerre de tous contre chacun, si on veut éviter de retomber dans le fameux l'état de nature de Hobbes où l'homme est un loup pour l'homme, il vaut effectivement mieux connaître les règles de politesse et les appliquer.
La montée de ce que l'on appelle les incivilités ou la décivilisation, c'est le reflet de quoi pour vous ?
D'abord, c'est un paradoxe, parce que ça arrive au moment où, manifestement, c'est ce que montrent les sondages, les Français ont quand même de plus en plus le sentiment que la politesse est une chose importante et même, je dirais, presque indispensable à la vie quotidienne, spécialement dans des époques de crise, lorsque la vie devient plus difficile. Et en même temps, si j'ose dire, on a ce phénomène, cette montée des incivilités, multiformes sur tous les plans, etc. On parle beaucoup des jeunes, mais ça ne concerne pas qu'eux, qui me semble lié justement aussi à cet effondrement de la politique que traduit entre mille autres choses l'abstention électorale, c'est-à-dire un sentiment de désaffiliation, le sentiment qu'on appartient plus vraiment, fondamentalement, à un groupe social auquel on doit quelque chose, et notamment respecter les règles du jeu. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait singulier et très inquiétant. Donc, si vous voulez, c'est l'individualisme radical combiné à d'autres éléments. Une sorte d'utilitarisme philosophique, l'idée que finalement je ne dois rien à personne sauf à moi-même, et naturellement les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, le téléphone portable du matin au soir et du soir au matin, en particulier chez les jeunes, accentue encore cette espèce d'autisme social.
Frédéric Rouvillois, et l'autorité dont Gabriel Attal se veut le champion, il l'a rappelé cette semaine avec son plan pour remettre l'autorité au cœur de la République. Est-ce que l'autorité est compatible avec la politesse ? Quand on parle d'autorité, on pense à l'armée. Quand on vous donne des ordres, on n'estime pas la nécessaire d'être poli. Et pourtant, c'est pas non plus de l'impolitesse.
Enfin, non seulement c'est compatible, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, mais c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus d'autorité, justement, il n'y a plus de société, il n'y a plus de politesse. Et si on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit avec saisissement et un peu avec effroi que les périodes d'anarchie complète, les périodes de révolution grave, de crise grave, il y a un exemple qui est absolument frappant, c'est les guerres et le lendemain des guerres. Mais les guerres, je pense en particulier à 1940, la débâcle, l'exode, pendant un mois, les Français sont jetés sur les routes, sans aucune autorité, sans aucune structure. Tout a disparu, toutes les structures du pouvoir et de l'État se sont évanouies. Et le résultat, c'est une espèce de régression totalement sauvage. Effectivement, les gens font n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment, quel qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, même s'ils ont appris par cœur les manuels de politesse de Manuel de la Baronne Staff. Donc oui.
La démocratie, c'est que l'on n'est pas forcément d'accord, mais qu'on peut vivre ensemble. Sinon, c'est la guerre civile. Mais pour vivre ensemble, il faut des règles de savoir-vivre, des règles de politesse. C'est là que la politique et la politesse sont inséparables pour vous ?
Oui, c'est-à-dire que si effectivement on refuse la politesse, c'est-à-dire qu'on ne joue pas le jeu finalement. Or, la démocratie, plus encore que d'autres systèmes politiques, suppose qu'on accepte effectivement les règles du jeu, qui sont des règles en un sens irrationnelles et aberrantes, puisqu'on fait comme si effectivement les autres étaient égaux et comme si n'importe qui avait le même pouvoir finalement par rapport à l'État. Donc effectivement, on est dans un système de règles du jeu au niveau politique. Si on ne respecte pas les règles du jeu au niveau social et que on ne se comporte pas de manière respectueuse à l'égard d'autrui, eh bien tout s'écroule.
Merci Frédéric Ruvillois. Je renvoie à la lecture de votre livre Politesse et politique. Ça vient de paraître aux éditions du Cerf.
Merci.
Et nous, on a maintenant rendez-vous avec Esther Creuset-Delbourg. C'est une spécialiste de l'eau. Et oui, il a beaucoup plu ces dernières semaines, au grand désespoir des Parisiens notamment. On va voir avec elle quelles vont être les conséquences.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Esther Creuset-Delbourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste spécialisée dans les questions de ressources en eau. Il a beaucoup plu ces dernières semaines, au grand dam des Parisiens d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas que les Parisiens. On se dit au moins c'est bon pour les nappes phréatiques. Est-ce que c'est le cas?
Alors, on a vu aujourd'hui dans les dernières cartes du BRGM que beaucoup de nappes phréatiques se sont rechargées en France. C'est une bonne nouvelle. Il reste quand même le sud et une partie de l'Alsace où c'est encore en deçà des normales. Donc, la pluie en fait n'a pas suffi à recharger ces nappes. Mais attention, parce que quand on regarde le climat ou la météo en général, la pluie n'est seulement qu'une partie du paysage global qu'il faut regarder. En fait, la pluie toute seule ne suffit pas à simplement régler les problèmes que nous avons. Il faut regarder d'autres paramètres, comme par exemple la température, pour pouvoir comprendre si vraiment tout va bien ou s'il y a encore des problèmes.
Alors, on va regarder tous ces paramètres. Mais d'abord, vous m'avez dit un jour que la pluie, au fond, tombe toujours dans les mêmes proportions dans un pays comme le nôtre, simplement sur moins de jours qu'avant.
Oui, on estime que la quantité de pluie qu'on reçoit en France reste globalement stable en fait, d'année en année, mais que cette pluie, elle est plus concentrée sur moins de jours. Et en plus, elle est évidemment inégalement répartie sur le territoire, ce qui veut dire que quand il pleut, eh bien il pleut plus. Et évidemment, tout ça est accéléré par le changement climatique, le fait qu'il fait davantage chaud et plus de chaleur, ça veut dire plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et donc des pluies encore plus fortes.
D'accord. Alors, est-ce que ça a suffi à recharger complètement les nappes phréatiques? Elles sont pleines aujourd'hui, elles débordent ou ça n'est pas à ce point?
Alors bon, déjà une nappe, c'est vrai que ça ne déborde pas. On entend souvent le dire, mais c'est important de le dire, que ça ne déborde pas. Mais en fait, il y a différents types de nappes. Il y a des nappes qui se rechargent très rapidement ou des nappes qui sont plus inertes, qui mettent plus de temps à se recharger. Et souvent, c'est celle-ci où il y a plus de problèmes. Notamment, on a parlé du sud de la France. On veut dire en Languedoc, en Occitanie, les nappes sont toujours à des niveaux quand même assez bas. Pareil en Alsace. Donc, c'est bien quand même que le reste de la France soit rechargé. Mais attention, il peut aussi y avoir des problèmes avec une nappe pleine parce qu'elle peut aussi être polluée. Donc, il y a d'autres problèmes à regarder.
D'accord. Alors, on ne va pas regarder que les nappes phréatiques. Hein. La végétation, par exemple, est-ce qu'elle a été abîmée par toute cette pluie?
Alors, la végétation, c'est un très bon exemple qui permet de comprendre pourquoi est-ce que la pluie ne suffit pas. Il faut aussi regarder par exemple la température. Petit exemple pour comprendre pourquoi la pluie ne suffit pas, je vais prendre l'humidité. L'humidité en soi, tout le monde sait ce que ça veut dire, tout le monde sait comment on la ressent, mais c'est pas la même chose une humidité avec une température forte ou une température basse. C'est pareil pour la végétation en fait. Il y a de l'eau en ce moment, ce qui est bien pour la végétation, et comme on va rentrer dans le printemps, eh bien les premières herbes, les premiers arbres vont capter cette eau, ça c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'on a eu un hiver tellement doux qu'en fait, une grande partie de la végétation s'est dit « Hop, c'est bon, je peux sortir, je peux venir voir ce qui se passe ». Donc ça a commencé à bourgeonner et en fait, c'est venu trop tôt. Pourquoi c'est venu trop tôt? Parce que maintenant, on se prend notamment des périodes de gel qui sont assez classiques sur le mois de mars-avril. Et ce gel, eh ben, il est d'autant plus dramatique quand les bourgeons sont déjà sortis, alors que normalement, ils doivent être cachés en dormance. Donc en fait, ce décalage de saison, le fait qu'il fasse chaud de plus en plus tôt, eh bien, ça perturbe complètement la biodiversité et la végétation, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne s'y retrouve pas. Et pour les agriculteurs, ça veut dire notamment des impacts économiques très graves.
Et la sécheresse des sols?
Alors la sécheresse des sols, elle est très liée forcément à la température. En fait, s'il fait très chaud, évidemment, un sol va transpirer son eau et donc va s'assécher d'autant plus. Ce qui fait que quand il pleut, par exemple, en septembre et qu'on est content, s'il a fait très très chaud avant, ça veut dire que le sol, il n'est pas capable d'absorber la pluie. C'est un peu comme la peau, en fait, qui elle-même peut parfois être sèche ou parfois très humide. En fait, un sol, s'il n'a pas eu de pluie pendant un mois, il ne peut pas se prendre d'un coup 3 jours de pluie, il ne saura pas l'absorber. Donc, en fait, ce qu'il faudrait dans un monde parfait, c'est un peu de pluie un peu tout le temps, des sols qui se gorgent et qui sont capables de transpirer leur eau, et des nappes phréatiques qui se rechargent au bon moment, de façon à ce qu'on ait de l'eau au bon moment quand on en a besoin après. Quoi.
À défaut, on risque les inondations.
À défaut, évidemment, c'est exactement ça qui s'est passé. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le phénomène climatique qui est qu'un sol qui est sec ne peut plus absorber d'eau. Des pluies trop diluviennes qui fait que de toutes les façons, on ne sait pas comment les gérer. Et puis à côté, vous avez les facteurs humains. C'est évidemment l'artificialisation, l'urbanisation explosive qui fait qu'on a recouvert la terre de tous ces trous potentiels pour absorber l'eau. Donc la terre ne respire plus, elle est complètement recouverte. Et donc quand il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui tombe, et ben, elle ne sait plus quoi faire et donc elle nous inonde en fait. Elle reprend ses droits sur nous. Quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à Dubaï ? On a vu des pluies violentes, torrentielles, dans un endroit qui normalement est désertique.
Absolument, c'est vrai que c'est très étonnant de voir ces trompes d'eau et on se demande, vu que c'est le désert, pourquoi est-ce que simplement ça ne va pas s'évacuer au-delà ? En fait, à Dubaï, alors, il y a un phénomène climatologique qui s'appelle de la goutte froide qui fait qu'en fait ça va... Alors ça a été déjà vu dans l'histoire du climat, donc ce n'est pas nouveau, mais il se trouve que cette goutte froide qui provoque en fait des pression atmosphérique très 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 forte et donc cette quantité d'eau diluvienne accentuée par le changement climatique qui va retomber sur un sol complètement bétonné dans lequel effectivement l'eau n'a jamais respiré puisqu'à Dubaï, comme le disent les climatologues, il n'y a pas de rivière, l'eau ne circule pas dans la ville. Forcément, cette pluie très très importante combinée à un sol complètement bétonné fait qu'elle ne sait absolument pas où elle est. Et évidemment, la ville n'était pas prête vu qu'on a vu que tout a été saturé extrêmement rapidement.
Et pour cause, il y a eu 2 ans de pluie, si j'ai bien compris, qui sont tombées en une journée.
Absolument. Il y a plein de choses qui ont contribué à ça. Au-delà de la goutte froide, il y a effectivement ce sujet qui a beaucoup été discuté sur l'ensemencement des nuages, qui fait que Dubaï, en fait, régulièrement, en fait, utilise la chimie pour pouvoir faire pleuvoir davantage. Et donc, on ne sait pas encore quelle est la part, en fait, de responsabilité dans ces pluies, de l'ensemencement humain et du changement climatique ou de la météo en général. Mais on sait que tout ça a fait un cocktail un petit peu explosif, qui fait que les quantités de pluie abattues étaient démentielles et qu'aucune ville, en tout cas, certainement pas Dubaï, n'était préparée à absorber toute cette eau.
Un mot sur l'ensemencement des nuages, parce que beaucoup en ont rêvé. On pourrait faire tomber la pluie quand on veut. Qu'est-ce que les spécialistes comme vous en pensent ?
Alors, il y a plusieurs façons de faire pleuvoir un nuage. Bon, il y a l'iodure d'argent qui a beaucoup été utilisé, notamment en Chine, lors des JO. Alors, je ne vais pas me tromper sur l'année, mais il y a quand même une bonne dizaine d'années, parce qu'on voulait qu'il pleuve avant les épreuves. Et on sait que le iodure d'argent, en fait, a des conséquences sur l'environnement qui sont assez graves. Et notamment, en plus, la pluie, ça retombe. Et donc, ça fait retomber le iodure d'argent. Et donc, nous, on en subit les conséquences sur notre santé. À Dubaï, apparemment, ce qu'ils utilisaient, c'était du sel de sodium, qui est un peu moins négatif pour la santé, mais qui, du coup, va saliniser les sols, les océans, enfin, tout ce qu'il y a autour. Donc, il y a quand même cet aspect négatif de renvoyer du sel. Ce qu'il faut savoir, et ça, pas besoin d'être climatologue ou économiste de l'eau, mais on ne peut pas jouer indéfiniment avec la nature, on ne peut pas dompter l'eau de façon indéfinie, on aura toujours, au bout d'un moment, l'eau qui va reprendre ses droits, on ne peut pas faire pleuvoir ou faire beau quand on veut, donc il va falloir commencer à réfléchir à comment s'adapter. Le climat va se déchaîner d'une façon ou d'une autre, donc adaptons-nous en fait le plus rapidement possible.
Alors revenons en France et à ces pluies abondantes des dernières semaines. Quelles conséquences sur les cultures et sur le vin ? Parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup au vin.
Oui,
et
alors,
vous n'êtes pas la seule.
Effectivement, le vin en fait est tellement sensible en fait dans le cycle de la vigne aux températures que c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder. Normalement, la vigne, et en tout cas le bourgeonnement, n'intervient pas avant mars-avril, à un moment donné où a priori on se dit que le climat, la température va plus ou moins rester stable et qu'elle va pouvoir en fait commencer sa croissance. Le problème, c'est qu'avec des températures de plus en plus douces, les saisons sont décalées. Si vous voulez, quelque part, ce qui devait se passer en mars-avril commence à se passer en février-mars. C'est pareil pour la saison estivale en général. Maintenant, on ne dit plus que c'est juin-juillet-août, on dit que c'est mai-juin-juillet-août-septembre. Avec plein de conséquences sur l'économie, comme on peut l'imaginer.
Et donc,
la vigne se réveille plus tôt. Et comme elle se réveille plus tôt, elle subit davantage les conséquences d'un gel tardif, par exemple en mars-avril. La chute des températures en ce moment est telle qu'effectivement, tout ce qui a pu sortir a froid. Nous, on peut s'habiller en conséquence, on peut enlever notre t-shirt, le remettre en fonction de la météo. Une vigne ne peut pas faire ça. Une fois qu'elle est sortie, c'est fini, elle est exposée. Et donc, c'est pour ça qu'en 2021, on a eu un début d'hiver assez chaud, et puis d'un coup, un gel tellement brutal qu'en fait, les vignerons ont perdu une quantité catastrophique de leur récolte cette année, par exemple.
On peut donner d'autres exemples que la viticulture ?
Oui, bien sûr, il y en a plein de choses. Alors c'est vrai que, là je prends un autre exemple, les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, en fait, ont inondé des champs de betteraves, notamment des champs de blé, qui font que, alors, première chose, on ne pourra pas récolter ces cultures-là, donc ça veut dire que c'est autant de cultures perdues pour l'agriculteur, mais ça a aussi empêché l'ensemencement de plein d'autres cultures. Ce qui veut dire qu'en fait, les cultures qui auraient dû pouvoir commencer à grandir là n'ont jamais été plantées à ce moment-là. Donc ça va décaler en fait complètement une saison. Donc le pas assez d'eau ou le trop d'eau impacte toutes les cultures, quelles qu'elles soient. En fait.
Et la période estivale, qui désormais s'étend du mois de mai au mois de septembre, donc mai, juin, juillet, août, septembre, quelles conséquences sur l'économie alors ?
Alors la première chose à laquelle on pense, c'est le tourisme. On sait qu'en ce moment, avec les très beaux week-ends qu'il y a eu en France, le tourisme a repris près des côtes françaises. Ça, c'est une bonne chose. Mais ça veut dire aussi que alors, sur la végétation et donc sur les cours d'eau, si on n'a plus d'eau dans les grandes zones touristiques, si on a moins d'eau, c'est d'autant de tourisme qui ne peut pas être accueilli. On sait que l'Occitanie va avoir des problèmes d'eau cet été. Est-ce qu'ils vont pouvoir accueillir les millions de touristes qui vont arriver ? Ça, c'est une vraie question. Et ça va décaler les régions. Ça veut dire qu'on sait maintenant qu'il fait presque trop chaud dans certaines régions en France, ce qui fait que d'autres régions vont en bénéficier. Donc en fait, c'est plutôt bénéfique pour le tourisme à très court terme, parce que ça veut dire que finalement, la période où les gens vont vouloir partir dépenser leur argent sur le sol français dans le tourisme va être plus grande. Ça, c'est les conséquences économiques court terme, mais évidemment, à moyen long terme, les conséquences pour les autres acteurs qui ne sont pas ceux du tourisme, comme l'agriculture, vont en pâtir, a priori, les conséquences plus rapidement.
Ouais. Merci Esther Delbourg-Crozer, c'est toujours très clair avec vous. On sait à quoi s'attendre.
Merci beaucoup. Europe 1.